Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Changement climatique, pollution de l'air, de l'eau, crise de la biodiversité et invasion du plastique. Si vous êtes un fidèle de cette émission, et je n'en doute pas, vous savez que le tableau est inquiétant. Notre environnement se dégrade, les inondations que subissent actuellement de nombreux pays africains en témoignent. Le climat se dérègle, les pluies sont plus denses, elles tombent sur des sols desséchés, incapables de les absorber, et c'est la catastrophe. La bonne nouvelle, et oui, il y en a au moins une, c'est que nous pouvons tous faire quelque chose. Il suffit de modifier quelques-unes de nos habitudes quotidiennes. Nos invités l'ont testé et vous allez voir, en plus, ça rend heureux.
C'est pas du vent sur RFI.
À l'occasion du One Planet Summit qui s'est tenu hier à New York en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a été sacré par les Nations Unies champion de la Terre avec Narendra Modi, le Premier ministre indien, et champion du climat avec 14 autres personnalités. Bonjour Audrey Pulvar.
Pourquoi moi tout de suite?
Eh bien pourquoi vous? Parce que depuis juin 2017, bonjour, vous présidez la Fondation pour la Nature et l'Homme, une fondation créée par Nicolas Hulot. Vous lui avez succédé quand il a accepté de devenir ministre de la transition écologique et solidaire, une fonction dont il a démissionné, donc fin août, en disant qu'il ne voulait pas donner l'illusion que la France est à la hauteur des enjeux écologiques. Alors Emmanuel Macron reçoit les honneurs de l'ONU, lui, par ailleurs, à New York. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, peut-être que les gens qui lui ont décerné ce titre ont une vision parcellaire de la réalité de la politique menée en France en matière de transition écologique et solidaire, parce que bon, on est peut-être, allez, on va en parlant correctement français, on est peut-être meilleur, mais j'ai envie de dire on est peut-être moins mauvais que d'autres puissances équivalentes à celle de la France, mais je ne crois pas pour autant que nous soyons des champions, loin de là. En tout cas, Emmanuel Macron, malheureusement, met beaucoup de distance entre ses discours très ambitieux, le fameux Make Our Planet Great Again, et la réalité des politiques menées et des actes entrepris.
Oui, parce que les émissions de gaz à effet de serre ont progressé en France.
Oui,
on est toujours pas, on ne tient toujours pas nos objectifs en termes d'énergie renouvelable. Donc champion de la Terre, champion du climat.
Non, mais on se donne clairement pas les moyens de d'atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, à Paris, en France, et d'atteindre les objectifs fixés par Emmanuel Macron. Tout a été déception depuis le début du quinquennat sur les principaux sujets, que ce soit la loi agriculture qui va être présentée bientôt et qui a été présenté d'ailleurs, qui a été adopté et qui est très en dessous de la main sur tous les compartiments, que ce soit la fixation d'un prix juste et d'une rémunération juste pour les agriculteurs, que ce soit la lutte contre les pesticides, que ce soit l'information des consommateurs avec un étiquetage honnête, que ce soit la prévention de l'obésité chez les enfants, que ce soit l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Alors même s'il y a un effort qui a été fait, on l'a noté sur les objectifs en matière d'alimentation bio ou responsable et durable dans la restauration scolaire, que ce soit sur la mobilité et les transports, qui est un sujet sur lequel nous travaillons aussi. Écoutez, les annonces pour l'instant sont très décevantes. Sur sujet hautement politique pour lequel justement on attendait une impulsion forte du chef de l'État, sur le droit commercial international, sur les accords commerciaux bilatéraux, singulièrement le CETA, le JEFTA, le TAFTA,
sont des accords
qu'on pourrait
de
relancer avec les États-Unis, qui sont des accords de libre-échange et des accords d'abaissement des droits environnementaux, des droits sociaux. Nous réclamons à la Fondation un veto climatique, c'est-à-dire qu'ils mettent les questions climatiques hors du périmètre des négociations et surtout hors du périmètre des attaques et des actions en justice possibles. Nous demandons, en plus du veto climatique, que l'accord de Paris et que le droit environnemental soit supérieur au droit commercial. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas engager ce type d'accords bilatéraux sans qu'ils soient soumis au respect des engagements pris dans l'accord de Paris. On en est très loin. Donc sur ces sujets-là, comme sur beaucoup d'autres, Emmanuel Macron n'a pas mis d'actes, ni de politique, ni de cohérence des politiques publiques derrière ces paroles. Et donc pour nous, c'est pas un champion.
Donc on va dire que en attendant la volonté politique, eh bien il faut stimuler l'action.
Voilà, c'est ça le problème.
On a plus le temps d'attendre.
On perd le temps qu'on n'a pas en fait.
Mais on a quand même chacun d'entre nous un rôle à jouer.
Salut, c'est Chaka Ponk. Alors on n'a pas du tout l'habitude de se youtubeuriser comme ça. Et croyez-moi, si on pouvait s'en passer, on le ferait. Le problème, c'est qu'on n'a plus vraiment le choix.
Alors la voix que nous entendons, c'est la vôtre, Fra, bonjour.
C'est génial, en fait vous allez mettre la vidéo, comme ça on n'a pas besoin de...
Voilà, vous pouvez aller prendre un café.
Bonjour.
Alors, vous êtes le chanteur du groupe de rock Chaka Ponk, bonjour Sam.
Bonjour.
Vous êtes la chanteuse du groupe Chaka Ponk. Et donc tous les deux, vous avez lancé en juin dernier The Freaks, que l'on peut traduire par les monstres, ou en tout cas ceux qui acceptent de ne pas faire comme tout le monde. Alors de quoi s'agit-il?
Ah, c'était une... ça a commencé il y a 3 ans cette histoire. En fait, on s'est mis pendant les concerts de nos tournées à faire des discours. Donc c'était un peu bizarre, on avait un peu peur de se lancer dans ce périlleux exercice.
Qu'est-ce que vous disiez en fait
concert? On a un concept un peu particulier, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de ça déjà dans Chaka Ponk avec les chansons et les visuels, du côté hérétique de l'homme, de la façon dont il a de scier la branche sur laquelle il est assis. Donc ça c'est un truc qui est récurrent et on avait envie d'en parler en français et d'expliquer aux gens au milieu du concert l'urgence. Donc on s'est rendu compte en le faisant qu'on avait une très bonne réception du public, c'est-à-dire que les gens étaient plutôt hyper, hyper contents, voire hystériques de joie, et un peu comme un preacher, tu vois, tu sentais que l'ambiance montait, et ils étaient tellement heureux qu'à la fin du discours, ils jetaient leurs gobelets en plastique en l'air, et du coup on avait entre 5 000, 10 000, 20 000 gobelets en plastique à ramasser, tellement ils étaient contents. Donc on s'est dit, c'est assez paradoxal, mais ça donne deux messages quand même. Le premier, c'est que ils ont envie, le public a envie est conscient de ce qui est en train de se passer, a envie d'agir, mais ils savent pas du tout comment faire. Donc on s'est lancé on est allé voir la Fondation pour la Nature et l'Homme pour leur demander de nous faire un bilan sur l'état de la planète. Alors on était un petit peu effrayés par tout ce qu'on a entendu, on s'en doutait, hein, mais c'était quand même effrayant. Mmh. Et puis on est rentré dans un processus d'échange, une espèce de loop de travail où on analysait, en fait. On voulait trouver une solution, comment expliquer, comment débloquer les choses. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait 3 trucs qui revenaient constamment dans l'analyse des gens. C'est, en premier, c'est pas à moi d'agir, c'est aux politiques. Ce qui n'est pas faux,
mais
si c'était
le cas,
Nicolas Hulot sera encore au gouvernement. La deuxième chose, c'était qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que d'acheter les produits qu'on me propose dans les magasins. Et la troisième, c'est j'ai un travail qui peut être polluant, pas éco-friendly, voire très polluant. Donc en gros, je suis enfermé dans un carcan et j'ai pas le choix. Donc notre but, c'était justement de décortiquer le quotidien du consommateur lambda. Donc ça fait beaucoup de choses dans une journée parce qu'il y a beaucoup de consommateurs différents et de voir si dans sa vie privée, dans son laps de temps personnel, indépendamment de son travail, indépendamment de la lenteur des politiques et puis de ce que font les industriels, si on changeait certains gestes, si on les adaptait, si on en enlevait certains, on pouvait vraiment créer une sorte d'émulsion et surtout faire basculer les choses. Donc on a travaillé avec la Fondation et
l'ADEME. Pendant 3 ans.
Ça a duré 3 ans parce que c'est extrêmement compliqué, il fallait trouver des gestes qui ait des vraies répercussions, pas seulement des trucs où c'est cool, le faire pipi dans la douche, tout ça, les trucs qui sont rigolos mais qui font rire en fait. Donc on voulait trouver des vrais gestes qui ont des vraies répercussions à 3 niveaux. La première, c'est qui baisse considérablement la pollution et puis qui envoie un message précis aux politiques et aux industriels qui est on ne veut plus, on veut décider nous-mêmes de ce qu'on consomme et on veut faire entrer dans l'analyse de l'achat d'un produit. En plus du fait qu'il est pas cher et qu'il est à portée de main, est-ce qu'il est bon pour ma santé? Est-ce qu'il est bon pour la santé de mes enfants? Est-ce qu'il est bon pour la santé de l'environnement et des générations futures? Et donc, le but du jeu était de trouver une liste de gestes qui était non seulement extrêmement efficace et puissant, mais super accessible. Donc là, c'est notre boulot à nous. On testait à chaque fois qu'on identifiait qu'un geste était très efficace, est-ce que c'est possible? Donc on allait sur le terrain, on faisait plein de tests, on essayait de ramener au restaurant leur Tupperware pour voir s'ils les reprenaient, on essayait de vivre sans aucune bouteille en plastique, jamais. On essayait de faire plein de petits trucs comme ça pour voir si c'était accessible. Et tout ce qui était accessible, en fait, on l'a listé sur
voilà. Netflix. Et ça donne, Sam, 22 gestes.
Exactement, 22 gestes.
Je crois qu'on a dépassé... 24, on est trop
fort. Oui, on a dû faire un tri.
Moi, j'ai compté ce qu'il y a sur
après,
le site.
On voulait vraiment avoir des gestes accessibles. C'est-à-dire qu'on, là, il fallait, c'était important de ne pas décourager les gens, même si. C'est-à-dire que, après, on avait envie de motiver les gens, mais comment. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire et c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'au départ, enlever les bouteilles de plastique, ça, moi, ça me semblait, je me disais, ça va être un peu compliqué. Et en fait, non, j'ai toujours ma gourde avec moi, je la remplis aux chiottes.
Oui. Par exemple.
Et en fait, c'est beaucoup plus. Il y a plein de choses. Baisser sa consommation de viande, ça, c'est un truc qui a un réel effet. Et même si l'idéal, c'est de l'arrêter complètement.
Et alors, vous avez beaucoup travaillé, hein, je le disais, et parce que quand on clique sur le site thefreaks.fr, il y a les gestes, et puis il y a justement pourquoi il faut faire ce geste. Oui. Alors, par exemple, je choisis un ventilateur plutôt que la climatisation, parce que la climatisation contient des fluides frigorigènes qui sont à base d'hydrofluorocarbures, dont l'effet sur le réchauffement climatique est plusieurs milliers de fois supérieur à celui du CO2. Pourquoi je marche au lieu de prendre ma voiture? Mais aujourd'hui, dans le monde, 9 personnes sur 10 respirent de l'air pollué et dangereux pour la santé, etc. Ouais. À chaque fois, on est attiré par un geste et on comprend pourquoi on doit le faire. Et c'est ça, en fait, qui donne non seulement la conscience de l'état de la planète, mais aussi la conscience d'agir.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, faites ça, et sans expliquer. C'est important que les gens... Déjà, le seul fait de conscientiser, les gens ont du mal à réaliser ce que c'est le réchauffement climatique, ont du mal à penser... Tout est un peu virtuel, en fait, pour les gens. C'est pour ça que les gens se sentent des fois pas concernés. Ils pensent qu'ils ont déjà leur loyer à payer à la fin du mois. Moi, j'ai mes gosses, il y a plein de choses qui sont des réels problèmes de vie. Et donc, à un moment donné, on peut pas leur dire « faites ci », enfin, sans explication. Donc, c'est important d'aider les gens à conscientiser le réel problème qu'est le réchauffement climatique et ses conséquences réelles, et avant d'être nous-mêmes dépassés, sachant que ça va très, très vite. Et encore une fois, comme disait Audrey, on a très, très peu de temps. C'est-à-dire que là, déjà, on est déjà...
On est déjà très en retard.
Et en même temps, on essaie de pas être catastrophique. Enfin, déjà de donner, c'est-à-dire que malgré l'urgence, on essaie de pas faire paniquer les gens. Parce que si on n'est pas constructif, c'est leur dire faut pas faire ça. L'idéal, c'est de proposer des alternatives.
Alors peut-être qu'en nous écoutant derrière votre poste de radio, vous vous dites c'est sûr que ce serait bien, mais par quoi commencer? Alors vous, Julien Vidal, vous avez une réponse très simple. Vous dites ça commence par moi. Et en 2016, vous vous êtes lancé un défi. Vous vous êtes dit chaque jour je vais faire un nouvel éco-geste. Et ça marche. Et vous venez de publier un livre, ça commence par moi, au Seuil, dans lequel vous décrivez justement cette démarche. Comme quoi c'est possible. Rassurez nos auditeurs, donnez-leur envie aussi.
Eh ben, j'aimerais bien rassurer nos auditeurs et je vais commencer par dire que c'est possible. Je vais commencer par dire qu'effectivement, j'ai réussi à cumuler dans mon quotidien 365 éco-gestes en un an, en ayant un travail, en ayant un salaire, tout ce qu'il y a de plus raisonnable, et de diviser par 5 mon empreinte CO2. Voilà, un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2. J'en émets aujourd'hui plus que 2. Si on prend le rapport des planètes, vous vous souvenez sans doute que c'est 2,9 planètes qu'il nous faudrait si nous étions tous des Français. Ben, si on vivait à la sauce, ça commence par moi, on aurait besoin de 0,8 planètes. Donc ça veut dire que déjà en 2017, j'avais en fait fait à mon échelle cette découverte incroyable, c'est qu'on a toutes les solutions pour agir dans notre quotidien et on n'a pas besoin d'inventer une nouvelle Tesla et de l'envoyer sur la Lune ou sur Mars, ou je ne sais même plus où ils l'ont envoyé dans l'espace, pour vraiment réussir à adresser ce problème qui est urgent. En plus, je me suis rendu compte que ça mettait en place un véritable cercle vertueux, puisque ça me permettait d'optimiser mon temps, ça me permettait de mieux consommer, ça me permettait d'avoir des produits de meilleure qualité dans mon assiette, et surtout, ça me permettait de faire 300 € d'économie par mois. Et ça, tout de suite, dès qu'on parle du porte-monnaie, ça intéresse les gens en général.
C'est pas que du sacrifice.
C'est pas que du sacrifice, parce que effectivement, ma plus belle découverte, c'est que ça m'a fait me rendre compte que j'étais plus spectateur, consommateur de ce monde, mais que j'étais acteur d'un monde meilleur, et que même si je ne suis qu'une personne au milieu de plus de 7 milliards d'humains, et ben en fait, je peux, moi, décider de faire pencher le monde du côté qui m'intéresse. Toujours est-il que nous n'avons plus le temps, il faut accélérer. Et c'est quand même intéressant de savoir que si les Français divisaient tous par 80% leur empreinte carbone, on économiserait 600 millions de tonnes de CO2. Ça ne vous parle pas, 600 millions de tonnes de CO2. Vous vous rendez compte que Total, chaque année, émet 6 milliards de tonnes de CO2. C'est incroyable. Donc, ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que maintenant, j'étais à l'aise dans mes baskets et que ben, je pouvais aller vers des solutions autrement plus collectives, en parler. Mais voilà, je fais partie d'un supermarché coopératif, je consomme une énergie 100% verte coopérative, je suis dans une banque éthique et solidaire. Et même au moment où on agit plus dans, dans un quartier, avec un budget participatif, ou même sur de la démocratie citoyenne, je comprends exactement pourquoi je le fais. Ce que tu disais tout à l'heure, Sam, est totalement vrai. On n'est pas sur la culpabilisation des gens, mais sur la responsabilisation. Ça change tout. On se rend compte qu'en fait, on devient adulte du monde dans lequel on veut vivre. Vous imaginez pas à quel point je me sens bien.
Ça fait du bien. C'est super important à souligner, effectivement, c'est que ça fait du bien et que plus on en fait, plus on en fait. Voilà. Quand vous disiez tout à l'heure, il y a des nouveaux gestes, et je suis sûre que vous aussi, Julien.
On en est à 415 gestes sur la plateforme, ça commence par moi.org.
C'est hyper enthousiasmant, on se sent de mieux en mieux, ça crée du lien social, parce que vous parliez de changer d'habitude, etc. Mais ça crée aussi des relations avec les gens, on lève un peu le nez de ses écrans pour parler à d'autres êtres humains en réel, et c'est hyper vertueux. Alors ça ne suffit pas, il faut aussi de l'action politique et tout ça, mais c'est quand même déjà très important.
C'est incroyable, on arrête d'être dans l'avoir, on devient être en fait, voilà. Et ça change tout.
Mais ça fait longtemps que c'était plus le cas.
Passer de l'avoir à l'être, ça c'est le grand principe du 21e siècle, en tout cas c'est ce auquel on va tenter d'arriver. Mais tout de suite je vous propose une petite pause, on se détend, on a compris, on peut agir, mais on peut aussi créer des projets, comme vous allez l'entendre dans un instant. On fait une pause qui va faire du bien avec Chaka Ponk, évidemment, Mysterious Ways.
I believed in my girl, but when she walked out the door, my core began to render just a lot more than before. I gave it all, she took it all, no matter what I say.
That's right.
Well, the girls work in mysterious ways. Now I believe in myself, that's all that I've got. I'm a voluntary man, born to work a lot. I gave them all, my body and soul, so many nights and days. Well, the biz works in mysterious ways. All right, now,
Mysterious Ways du groupe Chaka Ponk dans C'est pas du vent sur RFI, car les Chaka Ponk sont aujourd'hui nos invités. Ils ont lancé le collectif The Freaks pour inciter les artistes, les personnalités et chacun d'entre nous à changer nos petites habitudes quotidiennes pour limiter notre impact sur l'environnement. Un réflexe que Julien Vidal, qui vient de publier Ça commence par moi, expérimente déjà depuis 2016 avec un geste éco-solidaire chaque jour. Et Audrey Pulvar, c'est la Fondation pour la Nature et l'Homme que vous présidez, qui a accompagné Chaka Ponk pour les aider à identifier ces 22 gestes, parce que vous avez un comité scientifique ultra pointu.
Absolument. Alors moi, je n'étais pas encore arrivée à ce moment-là. J'ai pris le train en marche. Mais oui, on a un conseil scientifique qui est, enfin, moi, je considère comme l'un des trois piliers de la Fondation. On a un pôle scientifique et technique qui sont tous nos salariés experts, techniciens, des sujets climat, énergie, alimentation, agriculture, institutions, droit commercial, transport, mobilité, qui formule de la proposition politique. C'est notre think tank. On a un pôle d'action nationale et internationale qui s'occupe de confronter nos propositions au réel, au concret. Donc, aller sur le terrain, soutenir des projets. On va peut-être en parler tout à l'heure. Justement, c'est le PANI qui gère le programme Génération Climat. Et puis, on a un conseil scientifique qui est le troisième pilier, qui est constitué de scientifiques de premier plan, comme Jean Jouzel, comme Alain Grandjean, comme Pierre-Henri Gouillon, qui sont des spécialistes de plusieurs disciplines. On a des spécialistes du climat, on a des spécialistes de l'énergie, on a des spécialistes de la biodiversité, etc. Et c'est formidable, parce que pour moi, ce sont nos personnes ressources, en fait. C'est vraiment, ce sont eux qui nous aident à construire nos propositions, à construire notre discours, à comprendre l'architecture du monde tel qu'on voudrait le construire. Et c'est très important. Enfin, leur contribution, qui en plus est bénévole, et pour moi très très importante.
Oui, parce que ça permet de choisir les bons projets. Alors vous accompagnez, vous le disiez, ceux qui veulent déployer des projets, c'est le programme Génération Climat. Mm-hmm. On va en parler avec des acteurs, mais en quelques mots, c'est quoi ?
Ah ben, c'est l'idée que nous avons développée, qui est un dispositif de soutien, pas seulement financier, mais financier, d'accompagnement d'études de projets, et puis de visibilité que l'on donne aussi à des projets portés par des jeunes qui vivent en France essentiellement, mais pas que, et qui portent des projets liés à l'environnement ou à la biodiversité, soit qui mettent en jeu des jeunes et des plus anciennes générations, soit pour des jeunes qui, par exemple, seraient de français mais de parents issus de l'immigration, qui s'intéressent au pays d'origine de leurs parents et qui vont en quelque sorte, avec des projets, retourner vers le pays d'origine de leurs parents, développer des projets liés au climat et à la biodiversité.
Alors justement, on a un lauréat avec nous, Oussem Guédouard, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez créé en 2010 l'association Djerbaction, et le but c'était de promouvoir l'île de Djerba, qui se trouve donc à l'est de la Tunisie, et puis vous êtes rendu compte que cette île subit l'impact, mais vraiment massivement, du tourisme de masse, et là vous êtes dit qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, et vous avez décidé d'agir plus particulièrement sur l'enjeu de la gestion des déchets.
Tout à fait. L'association a été créée en 2010. On s'est focalisé au début sur l'axe culturel. Et petit à petit, on a vu que le tourisme de masse a fait quand même quelques petits dégâts.
Petits dégâts. Vous pouvez y aller carrément. Ça fait d'énormes dégâts à Djerba, le tourisme de masse.
Donc, Mais l'accélération en fait de l'activité économique et touristique a fait que le milieu écologique devient de plus en plus vulnérable. Du coup, on a commencé à s'intéresser à la préservation de l'île. Et comme on a une antenne à l'île de Djerba, le jour où on a entendu parler du programme Génération Climat, on s'est dit bon, ça peut être une bonne opportunité pour nous. Et c'était le projet Ecotri, qui cible principalement les écoles élémentaires de l'île de Djerba. L'idée, c'est de mettre en place un système de tri dans les écoles élémentaires et de sensibiliser les élèves, les instituteurs, les parents d'élèves aux problèmes de l'environnement
Donc vous avez installé des poubelles, enfin vous êtes en train d'installer des poubelles dans 22 écoles, et puis à côté, on le disait tout à l'heure, hein, quand on est écologique, on est aussi souvent solidaire, donc ces déchets sont aussi ramassés par des personnes qui sont dans des situations précaires, et ensuite remis dans le circuit du recyclage.
Exactement. Le projet, c'est un projet en fait socio-environnemental. L'idée, c'est qu'on arrive à préserver l'île, mais en même temps à créer de l'emploi solidaire. Donc, les collecteurs sont des personnes de la classe sociale défavorisée. Et le but de cette action-là, c'est de permettre à ces gens-là de gagner de l'argent tout en ramassant les déchets des écoles. Donc, ce qui fait qu'on arrivera peut-être un jour à créer de plus en plus d'emplois dans le milieu de l'environnement. L'idée, c'est de fédérer les efforts de tous les acteurs, en fait, à l'île de Djerba. Et j'espère qu'on arrivera un jour à pérenniser cette action-là d'une manière que ça soit un peu plus large, parce qu'aujourd'hui, on cible, je rappelle qu'à l'île de Djerba, il y a 3 communes. Donc, on cible pour l'instant les 22 écoles de la commune Midoun, et espérons avec l'aide des partenaires qu'on arrivera à élargir le périmètre.
Et quand Midoun sera super propre, les deux autres vont avoir envie de faire pareil, hein. Et puis j'espère. Les enfants entre eux vont discuter, on dira tu fais ça, ben moi aussi j'ai envie de le faire, en général ça fait tache d'huile. Donc on peut voir en tout cas votre action sur le site gerbaction.org,
et on relance Génération Climat, hein. il y a la possibilité pour ceux qui auraient
porteurs
de projets, voilà, de soumettre leur projet jusqu'au 30 septembre sur le site de la FNH.
Alors il y a des petits critères, il faut avoir entre 15 et 35 ans.
Oui. Tout à fait. Et puis porter un projet qui soit lié à la résorption de la question du réchauffement climatique ou qui porte sur la biodiversité.
Alors il y a un autre lauréat qui est en ligne avec nous, cette fois depuis Lyon, dans le sud-est de la France. Bonjour David Manda Kitoko.
Bonjour.
Vous avez créé l'association Génération Lumière, avec laquelle vous intervenez dans la ville d'Ouvira, c'est dans l'est de la RDC, avec un programme de reboisement. Combien d'arbres avez-vous planté jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, nous allons planter 25 000 arbres, mais il n'y a pas que ça comme action qu'on a prévue. Également aussi l'action sur les poubelles, parce que chez nous, il y a un adage qui dit « il faut voir pour qu'on puisse y croire ». Et donc, avant de planter les arbres d'une manière industrielle, on a voulu d'abord sensibiliser, créer un déclic dans la tête des gens pour qu'ils puissent nous suivre dans nos actions. Donc on a commencé par travailler effectivement avec les écoles où on a créé des clubs d'environnement. Ensuite, on a travaillé également sur les poubelles. Et là, le 4 octobre, la journée internationale pour l'arbre, on va planter 1000 arbres avec des écoles en ayant notre pépinière qui commence à grandir pour à la fois permettre cette éducation sur l'environnement, cette prise de conscience. Et ensuite, planter d'une manière évolutive avec les gens ces 25 000 arbres dans la ville d'Ouvira.
Donc vous plantez aussi des graines dans les têtes des enfants ?
C'est ce qui nous intéresse plus, parce qu'on pourrait planter les arbres et ensuite demain on va les couper pour fabriquer des braises. Ce n'est pas plus intéressant que de commencer par éduquer, sensibiliser à la fois des grands mais aussi des petits mais aussi des grandes personnes.
Les enfants sont hyper réceptifs à ces informations. Je sais que le batteur du groupe s'est fait convoquer par la maîtresse de sa petite fille, donc il a flippé. Ouais. Et la maîtresse lui a dit, écoutez, on a un problème, votre fille qui a 5 ans m'a dit, qu'est-ce que je fais avec le gobelet en plastique qui va finir dans le ventre des poissons? Donc on a un problème, et en fait c'était naturel pour elle à force de baigner là-dedans, je pense que ça peut aller assez vite quand même.
Oui, c'est ça qui donne de l'espoir, et j'imagine que ça marche en République démocratique du Congo, dans la ville d'Ouvira où vous intervenez.
Oui, ça marche très bien. Alors nous, on a évité de fixer les enfants dès 5 ans parce qu'ils ne sont pas dans l'action tout de suite. On a commencé plutôt vers l'âge de 12, 13 ans parce qu'ils sont en capacité de comprendre et que nous sommes un peu vus comme des grands frères qui donnent l'exemple. Et donc, ils nous suivent en espérant qu'eux, ils vont pouvoir donner aux petits transmettre au petit les...
C'est un bel exemple. Hein,
merci beaucoup David Mandakitoko pour ce que vous faites et pour votre témoignage, et votre site c'est générationlumière.fr. Donc Julien Vidal, vous entendez tous ces gestes vous-même, je le disais, vous en avez fait un par jour pendant un an, et dans le livre que vous venez de publier, Ça commence par moi, vous dites: nous sommes les aventuriers d'un monde fini, il nous faut apprendre à protéger, partager, optimiser nos ressources. C'est ça, nous sommes des aventuriers d'un monde fini,
c'est
et on
génial,
s'en rend pas
non
compte. Mais c'est génial ce que vous écrivez.
Génial.
Autosatisfaction.
Il parle de solidarité et en fait, on vient là, ça amène à la solidarité.
On cherche
à
toujours à sortir de nos limites, mais en fait, le cadre, il est bien là. Et c'est finalement très libérateur. C'est paradoxal, mais le fait d'avoir un cadre et de se dire, bah voilà, ça y est, on a touché à tout ce qu'on pouvait toucher sur la Terre. Et maintenant, il faut réussir à accepter aussi, bah, de creuser beaucoup à l'intérieur. Je pense que moi, au début, je partais naïvement, je sais pas, sauver la planète, même si en fait la planète elle existait avant nous et elle existera après nous. Mais en fait je me suis rendu compte à quel point plus je me souciais de l'autre et plus je me souciais de moi-même et plus en fait on rentrait dans un respect qui était du vivant total. On arrête d'être seulement sur la question de la faune, de la flore, puis ensuite on se rend compte qu'il y a les autres êtres humains et puis en fait on commence aussi par soi. Parce que à quoi ça sert d'avoir cet extraordinaire cadeau qu'est la vie si ce n'est pour même pas en profiter soi-même, s'infliger un travail qu'on déteste, rester avec des gens qui nous font du mal. Enfin, faisons nous du bien et devenons ces aventuriers. Mais finalement c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on peut tous avoir une manière originale, unique, d'explorer nos talents et de vivre cette aventure. Je pense vraiment que c'est à partir
moi,
du
si je vous écoute,
compte...
là je suis auditeur chez moi tranquille, je me dis oh, qu'est-ce qu'il parle bien, c'est génial ce qu'il dit, mais moi ça va être compliqué pour moi.
Mais bah, c'est écrit dans son livre.
Tout ça c'est un cheminement et exactement le premier pas est très important. On dit beaucoup que les petits pas ça sert à rien, mais malheureusement on met trop les petits pas dans le rang de éteindre la lumière et d'arrêter l'eau quand on se brosse les dents. Donc déjà il y en a beaucoup, et en fait le fait de marcher, on se rend compte à quel point on a un pouvoir. C'est l'important, c'est d'avancer. L'imperfection ne peut pas légitimer notre inaction. Tous les jours on essaye. Je suis pas parfait, je le serai jamais, et tant mieux. Mais par contre j'essaye, je rate, je réessaye à nouveau et je deviens plus fort par rapport à ça. J'apprends, je continue à rencontrer des gens inspirants, et en fait ça c'est une quête sans fin qui nous apporte mille fois plus de bonheur, même pas mille fois plus, beaucoup plus de bonheur que n'importe quel produit qu'on pourra acheter.
Ouais, il faut redéfinir le grotesque en fait. C'est-à-dire que là, on ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesques qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon, en lui expliquant, ouais, c'est pas de bol. Hein. Mais, et il fumait dans cette pièce. Et on s'est rendu compte que c'était grotesque. Et maintenant, tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Donc il faut réapprendre, il faut reprendre du recul sur les choses et savoir qu'il y a plein de petites choses qu'il faut arrêter de faire, et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire, c'est ça la vraie idée.
Et c'est pas un combat inaccessible, c'est-à-dire que je pense que c'est aux gens d'agir, mais c'est vrai, comme disait encore Audrey, je te reprends encore, mais que c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que nous, en agissant, c'est la base, ça permet après d'influencer les industriels et les politiques, parce qu'effectivement, eux n'agiront pas, sachant qu'ils ont finalement peu de pouvoir. Et je pense que c'est à nous de lancer le mouvement, c'est aux citoyens, c'est aux gens de lancer le mouvement et d'arrêter d'attendre. Mais on a quand même besoin, à un moment donné, d'avoir une démarche politique, parce que les industriels sont ceux qui polluent le plus, même si nous, on fait beaucoup de choses à échelle individuelle, et tout ça, c'est très important. Mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir avoir une démarche plus combative. Plus précise. Donc, c'est arriver à trouver le juste poids et mesure.
Je crois qu'on n'a plus le temps d'arrêter d'être ambitieux. Ah, soyons ambitieux.
Oui.
Voilà.
Non, ce que je voulais dire, c'est que je ne voudrais surtout pas, d'autant plus qu'on est sur RFI, donner l'impression qu'on est là entre Parisiens en train de donner des solutions de Parisiens à des Parisiens.
Non,
mais justement,
c'est
bien ce que je dis. Ce n'est pas, on n'est pas là entre Parisiens en train de parler à des Parisiens. On est là en tant que citoyen à parler
en tant qu'humain vivant sur une planète finie,
et à parler à d'autres citoyennes, quel que soit l'endroit du monde où ils sont, ils peuvent aussi faire des petits gestes. Alors évidemment, quand on est un Grenoblois ou un Parisien, on est plus responsable de, du volume d'émissions de gaz à effet de serre de la planète que quand on est dans les faubourgs de Bamako ou quand on est au Malawi. Mais chacun peut faire un geste et tous les gestes comptent, ceux des citoyens, ceux évidemment des industriels, des multinationales, et bien sûr il y a le niveau politique. Mais tout à l'heure tu disais Sam, l'écologie c'est pas punitif. Non, l'écologie c'est pas punitif. Ce qui est punitif, c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui, et c'est, ce chiffre repart à la hausse, un milliard quasiment, un milliard d'êtres humains, 1 sur 7, qui survit avec $1 par jour, et 3,5 milliards, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale, qui survivent avec $2 par jour, ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté au niveau mondial. C'est-à-dire qu'un habitant de la Terre sur deux est en situation d'extrême pauvreté, alors que nous avons les moyens aujourd'hui, non seulement de nourrir chaque habitant de la Terre, mais en plus de le nourrir bien, de le nourrir par exemple en bio. Et quand vous voyez que dans un pays comme la France, mais dans d'autres pays évidemment, il y a des millions et des millions de personnes qui subissent tous les jours l'impact du réchauffement climatique, il ne s'agit plus de se dire, voilà, on est entre Parisiens en train de parler à des Parisiens, on est en tant que citoyen en train de parler à d'autres citoyens qui nous écoutent, et dans le monde entier, ils peuvent faire aussi leur petit geste.
Chaque geste compte, et en plus, faire des gestes écolos, ça rend heureux, comme la musique de Chaka Ponk. Bunker, non, c'est pas du vent sur RFI.
Encore Chaka Ponk.
Let's go. Du groupe Chaka Ponk, on est très dissipé dans ce studio.
Pardon, excusez-nous.
Voilà. on dansait dans ce pas du vent sur RFI parce que les Chacaponks sont aujourd'hui nos invités. Ils ont lancé le collectif The Freaks pour inciter les artistes, les personnalités, chacun d'entre nous, on l'a dit, à changer nos petites habitudes quotidiennes. Alors combien de personnalités vous ont rejoint aujourd'hui, Sam?
Je crois qu'on est à 35.
Une trentaine.
Alors l'idée, c'était d'avoir, que ce soit pas un collectif de gens du public, parce qu'on avait peur que ce soit facile de dire « moi je fais ci, moi je fais ça », sans que ce soit vraiment vrai. Donc on avait envie que ce soit un collectif de gens publics, qui déjà ont des gros réseaux et qui peuvent passer des messages clairs et précis sur leur réseau, qui sont écoutés en plus par leurs followers, et surtout qui ne peuvent pas mentir. Quand un homme connu ou une figure publique dit « j'ai arrêté complètement de bouffer de la viande, je me déplace en électrique et je ne prends plus jamais de bouteille en plastique », c'est hyper facile de le griller si c'est pas vrai, et ça serait pas top pour lui. Donc c'est important qu'on ait, dans un premier temps, ce collectif soit fait de personnalités, de gens à gros réseau, pour pouvoir passer le message au plus grand nombre. Donc si tu es quelqu'un à forte notoriété et que tu veux rejoindre The Freaks, n'hésite pas.
Voilà, c'est ouvert à tout le monde, pas aux artistes et personnalités françaises.
On voulait éviter les politiques.
Oui, non, artistes et oui, voilà, personnalités, c'est vrai que ça
voilà, et puis monsieur et madame tout le monde aussi.
Voilà, exactement. Donc c'était vraiment le but du jeu, c'est qu'il y ait le plus gros nombre de followers qui se réunissent autour de ces messages-là. Donc,
TheFreaks.fr.
Ouais, TheFreaks.fr.
Voilà. Bon, si vous êtes une personnalité et que vous entendez cet appel, vous pouvez rejoindre les monstres.
Même Booba. Booba qu'on a remplacé sur un festival peut venir nous rejoindre maintenant qu'on est devenus des copains.
D'accord, donc vous êtes ouvert à tous les types de personnalités. Mais le problème, Audrey Pulvar, c'est que c'est très bien toutes ces initiatives, ce que fait Julien Vidal, ce qu'ont fait les personnes, on disait à Djerba, en République démocratique du Congo, les personnalités qui s'engagent, mais il faut changer d'échelle, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission.
Oui, parce que tout est bon à prendre, toutes les initiatives, toutes les gouttes d'eau du colibri pour éteindre l'incendie sont bonnes à prendre. Mais malheureusement, je dis souvent dans mes interventions en public que ça ne suffira pas, parce que c'est une collection de solutions collectives, individuelles, etc., qui font changer les choses. On a vu avec ce que nous disait Julien tout à l'heure, l'impact est réel, mais ça ne suffit pas s'il n'y a pas une transformation
exponentielle,
profonde de nos modes de vie, de nos modes d'organisation, de nos modes de déplacement, des règles du commerce international. Et donc là, il faut une responsabilisation forte des multinationales, de la finance internationale, qui va peut-être faire bouger les choses plus vite que finalement le politique, parce que la finance internationale commence à comprendre que désinvestir le fossile et investir dans les énergies renouvelables et investir dans les projets respectueux du climat, c'est pas seulement une question d'énergie, hein, devient plus profitable finalement que d'investir dans le vieux système. Et puis il faut que le politique prenne ses responsabilités. Là, on en est encore loin. Quand je dis ça, quand je parle du politique, je parle du politique dans les pays les plus émetteurs, dans les pays développés, dont la France, évidemment, les États-Unis, tout ça. Mais quand vous allez, puisque j'ai la chance de me déplacer, d'aller souvent dans différents pays d'Afrique, par exemple, parce que l'Afrique n'est pas la seule concernée, évidemment, et que vous rencontrez, moi, je rencontre des gouvernants, singulièrement au Burkina Faso, qui sont hyper au taquet, pour bien parler français, sur ces questions-là.
Oui, parce que vous travaillez avec le Burkina Faso pour essayer de faire rentrer justement les changements climatiques dans la constitution du pays.
Et d'ailleurs, le projet de constitution du Burkina est beaucoup plus avancé sur ces questions-là et beaucoup plus ambitieux que n'importe quelle constitution de n'importe quel grand pays développé. Regardez le mal qu'on a en France à faire entrer à l'article 1er de la constitution, et on n'en est pas encore là, hein, le climat et la biodiversité. Le Burkina va bientôt soumettre à référendum un projet de constitution dans lequel est reconnu le crime d'écocide, dans lequel le climat et le droit à un environnement sain figurent à l'article 1er de la constitution, et qui est extrêmement contraignant et qui est extrêmement volontariste. Pourquoi ? Bon, peut-être parce que les dirigeants burkinabés sont particulièrement vertueux, je ne sais pas, mais sans doute parce qu'ils sont déjà confrontés, mais de façon extrêmement éclatante, aux conséquences du réchauffement climatique. Et pour eux, c'est plus, voilà, c'est plus un truc d'une question de court terme, de moyen terme, de long terme. C'est déjà maintenant, tout de suite. Donc ils ne se posent plus la question de transformer, de changer de paradigme. C'est eux-mêmes qui utilisent l'expression de changer de paradigme.
Julien Vidal, donc vous disiez, vous leviez les yeux au ciel, vous disiez, parce que ça ressemblait à une parole. Vous en avez marre de faire vos petits gestes et de voir qu'au-dessus ça bouge pas?
Et ça va bouger, on n'aura pas le choix, mais là il faut qu'on arrive à se compter. C'est le fameux dicton de la forêt qui pousse et qui fait beaucoup moins de bruit que les arbres qui tombent. Donc comptons-nous et montrons que nous sommes des centaines de milliers, voire des millions en France à agir sur ces thématiques. Il y a une marche pour le climat.
Et dans le monde.
Il y a une marche pour le climat le 13 octobre où on va encore tous pouvoir montrer que ce sont des sujets qui nous intéressent. Et ensuite, ce que je préconise aussi, parce que c'est vrai qu'au niveau gouvernemental, on a du mal à se dire, mais comment vraiment on peut agir? On peut écrire à ces députés. Et donc là, il y a des dizaines de députés qui n'ont pas voté pour enfin éradiquer le glyphosate. Et bien donc du coup, on leur dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et on explique pourquoi ça nous touche. Et puis ensuite, je pense qu'aussi, il y a une échelle qui est plus incarnée, qui est plus humaine, c'est-à-dire celle des villes. On a aussi énormément de marge de manœuvre et on peut aller dès aujourd'hui vers sa ville pour les invoquer à passer à une politique beaucoup plus ambitieuse au niveau de l'écologie.
Ouais, il faut, exactement. Je suis complètement d'accord. Il faut savoir qu'on est quand même un tournant de l'histoire de l'humanité et on est face au plus gros fléau, le plus destructeur qu'on a créé nous-mêmes. En plus, ça, c'est très original pour une espèce de créer sa propre... Voilà, ça, c'est plutôt la classe. Et on est face à un moment, à un tournant où les citoyens, les politiques, les industriels doivent changer. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le courage de changer. On peut être soit... ça, c'est un truc que j'ai entendu d'Adrien, ce mec, un philosophe, un scientifique qui a posté sur Climax une vidéo géniale. On peut être soit les plus grands lâches de l'histoire, soit les plus grands héros. Les citoyens peuvent décider. Les citoyens peuvent décider maintenant de réapprendre à consommer, de consommer différemment et de réparer les choses. On peut décider ça, même si nous enlève un peu de liberté, un petit peu de confort. On peut décider ça.
Et même pas
ça.
En plus. Et on l'a déjà fait. On l'a déjà fait pour la couche d'ozone il y a quelques dizaines d'années. Et c'est en train de se refermer. Et ça a marché. Donc continuons à le faire à une échelle plus ambitieuse.
Les citoyens peuvent le faire. Les politiques doivent être les politiques d'aujourd'hui doivent être ceux qui osent se dresser contre les lobbies.
L'écologie, ça doit être un projet politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être politique sans faire d'écologie. Ça n'a aucun sens.
Mais il faut oser le faire, en fait. C'est une question de courage, presque, parce qu'il faut lancer des lois impopulaires. C'est normal que les politiques fassent rien. La masse de gens n'est intéressée, en gros, que par du pouvoir d'achat et avoir du boulot.
Et encore une fois, l'écologie, et si se passe les pesticides, par exemple, ça concerne tout le monde. C'est qu'on est tous victimes de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas faire de l'écologie, c'est pas se protéger un concept quelconque, virtuel ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. Les gens qui mangent pas bio, ils se bouffent des pesticides. C'est-à-dire que là, on est tous victimes d'eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, ne serait-ce que pour ses enfants, pour soi-même, ça concerne toutes les générations, toutes les races, tous les pays. Malheureusement, l'Afrique ou les pays les plus pauvres vont être les premières victimes. Et la vérité, c'est qu'on est tous concernés. Si à un moment donné, il y a un moyen de... C'est une question de logique simple.
Enfin de courage aussi un peu. Au niveau du citoyen et au niveau de l'industriel. Il faut que les gros industriels décident sur 2, 4 ans, 5 ans, 6 ans de réduire considérablement leur marge pour réapprendre à produire de nouveaux produits adaptés à la situation.
Mais en général, les changements de civilisation se font par les citoyens, pas par les politiques.
Oui, le citoyen, en fait, comme disait Julien, le citoyen par des manifestations, par des forums, par des débats, envoie un message. Mais je pense que le message le plus fort, c'est j'ai décidé de consommer différemment et de voir les choses différemment.
Et réunissons-nous.
Ça, c'est un message qui va être fort.
Plus ensemble, on est plus fort.
Ensemble, on est plus fort. Ça sera le mot de la fin de cette émission. On l'a bien compris, on peut faire chacun des gestes dans notre coin, mais ensemble, on est plus fort. Donc rendez-vous pour les Français, en tout cas le 13 octobre pour la marche pour le climat. Sachez que sur Internet, il y a plein de petits tutos pour organiser des marches dans vos pays. Donc n'hésitez pas, le 13 octobre, le ton est donné en France, mais vous pouvez le faire chez vous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à Swell Kedir pour la vidéo. Et merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site Internet de RFI onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Un petit jacapon. Hein.